Place Info.
Bonjour Jean-Baptiste Djebari.
Bonjour.
Le cours du pétrole brut a bondi hier de près de 15% sur les marchés. C'est la plus forte hausse constatée depuis 30 ans. Est-ce qu'on est au bord d'un choc pétrolier ?
Il a bondi des suites, effectivement, de l'attaque de dépôts pétroliers en Arabie Saoudite. Et effectivement, il a tendu encore plus la relation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ce qui a fait monter le prix du pétrole à un niveau qui, certes, a bondi en une journée, mais qui reste sensiblement le niveau de mai dernier. Je rappelle que $66 environ le prix du baril de brut. Je rappelle qu'à la même époque, l'année dernière, le prix était autour de $86. Donc il faut certes regarder ce sujet de façon extrêmement vigilante, mais il ne faut pas non plus créer ce vent de panique. Les solutions,
on ne s'inquiète pas pour l'instant.
On est très vigilant sur la situation géopolitique et vous savez notamment que le président a beaucoup œuvré. Les accords de Vienne en 2015, c'était le président précédent, l'action diplomatique d'Emmanuel Macron au cours du G7 de Biarritz. Et puis nous sommes évidemment vigilants dans l'information que nous avons à faire aux consommateurs. Nous appelons les pétroliers à la modération sur l'augmentation des prix. Il y a des comparateurs de prix qui permettent aux usagers de se renseigner. Et vous savez que d'une manière générale, la politique environnementale que nous menons vise à sortir de cette dépendance aux énergies fossiles. Et c'est bien comme ça qu'on arrivera.
Vous appelez les pétroliers à la modération des prix, c'est-à-dire que vous avez un doute sur le fait qu'ils sont peut-être en train d'augmenter leur marge ces derniers jours.
Je n'ai pas un doute, mais pédagogie vaut parfois de bonnes garanties. Et donc oui, nous appelons les pétroliers à cette modération-là, en sachant que d'ailleurs ce matin, Donald Trump a eu des propos qui confinent un peu à la désescalade, une désescalade qui est souhaitable. Et donc nous sommes d'une manière générale très vigilants sur le sujet.
Renaud Dely.
Si on constate ces jours prochains une hausse des prix de l'essence à la pompe, est-ce que le gouvernement prendra des mesures compensatoires éventuellement pour justement compenser ces effets de hausse ?
Alors, vous avez une mesure qui a été prise l'année dernière, qui était le gel de la taxe carbone sur les prix des carburants, qui, comme vous le savez, avait été un des irritants principaux de la crise des gilets jaunes. Et je vous le dis, la meilleure réponse, la meilleure politique publique en la matière, c'est la sortie des énergies fossiles. Et nous avons voté une loi il y a deux jours dans l'hémicycle sur les mobilités.
Mais ça va prendre du temps.
Les flottes.
Ça va prendre du temps. Dans l'urgence, est-ce que le gouvernement peut envisager d'alléger d'autres taxes sur les carburants ?
Encore une fois, je rappelle qu'on est au niveau du prix du pétrole de mai dernier et qu'en l'état, nous ne sommes pas dans une crise telle que nous l'avons connue en 2008 avec des prix qui touchaient ou qui avoisinaient les $150.
Il n'y a pas de risque de choc pétrolier pour vous. Il n'y a pas de risque de choc pétrolier.
Nous sommes vigilants, mais si la situation géopolitique, on va dire, s'amortit un tout petit peu, il n'y aura pas de crise telle que celle que nous avons pu connaître.
Jean-Baptiste Djebari, vous recevez après-demain avec votre ministre de tutelle, Elisabeth Borne, les transporteurs routiers qui s'inquiètent, eux, d'une autre mesure qui avait été annoncée déjà il y a plusieurs mois, c'est l'augmentation des taxes sur le gazole. Est-ce que vous êtes prêt à faire un geste pour eux ou est-ce que c'est la double peine ?
Alors, ils s'inquiètent effectivement de l'augmentation de 2 centimes par litre du prix du gazole. Mesure sur laquelle j'ai annoncé il y a quelques jours que nous ferons en sorte de la répercuter en pied de facture. Alors c'est un peu compliqué, oui. Mais ça consiste à la neutralité pour eux. Ce sont les chargeurs qui paieront ces 2 centimes par litre. Et ça me paraît être une mesure qui conforte les routiers dans leur compétitivité.
Pardon, j'essaie de comprendre. Les chargeurs vont répercuter, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les routiers, effectivement, la mesure telle qu'annoncée implique une augmentation de 2 centimes par litre sur le prix du gazole à la pompe, et que cette mesure sera répercutée, ces 2 centimes, cette augmentation sera répercutée en pied de facture, c'est-à-dire que les routiers, les transporteurs routiers, ne la subiront pas. C'est le client qui la paiera.
C'est une mesure qui est attendue par eux. Qui va le payer, donc oui.
C'est une mesure qui est attendue par les routiers. Et j'ajoute qu'en fait, la grogne des routiers actuels est le fruit de plusieurs mesures ou de plusieurs dispositifs qui sont venus se superposer. Et que l'idée de la réunion que nous aurons jeudi avec eux, c'est bien de poser l'ensemble de ces mesures sur la table. Et à la fois, effectivement, d'apporter la juste contribution des routiers sur le plan du dommage environnemental. Ça, c'est les mesures dont nous avons parlé. Et puis, de préserver quand même leur compétitivité qui est retrouvée depuis quelques mois, quelques années maintenant et qu'il s'agit de préserver.
Et on se souvient évidemment que la question des carburants, de l'envol du prix des carburants avait été à l'origine du mouvement des gilets jaunes à l'automne dernier. Pour vous, il n'y a pas de risque d'une répétition, d'un même mouvement de mécontentement
je crois
cet automne
que
vous écartez cette hypothèse.
Je n'écarte pas l'hypothèse, mais vous savez, la peur est plutôt mauvaise conseillère en politique. Moi, les routiers, ils commencent à retrouver des marges, ils ont besoin de travailler, de besoin de rouler, ils veulent de la stabilité et de la visibilité. Les routiers, ils sont tout à fait prêts à faire la transition écologique. D'abord, ils la font déjà, mais ils veulent de la stabilité fiscale et sociale, et c'est ça que nous allons tenter de leur apporter jeudi.
Justement, vous évoquez la transition écologique, Jean-Baptiste Djebari, la nécessité de sortir des énergies fossiles. Le président délégué du MEDEF, Patrick Martin, était l'invité de France Info ce matin, et voilà l'appel qu'il lance à l'État.
Il faut que la transition écologique qu'on attend tous, qui est indispensable, soit financée sainement. Ça n'est pas en chargeant les entreprises qu'elle doit être financée. C'est-à-dire que c'est l'État qui doit faire des économies.
qu'il ne faut pas charger les entreprises, vous dit le MEDEF. Les entreprises aujourd'hui, à vos yeux, en font suffisamment justement pour financer la transition écologique?
En tout cas, il ne peut pas nous faire le procès d'être le gouvernement qui n'a pas allégé la fiscalité des entreprises.
Oui,
c'est
oui.
L'action du gouvernement depuis 10 mois.
Le MEDEF ne peut pas vous faire de reproche.
Sur les ménages. Non, mais nous avons baissé de plus de 20 milliards d'euros la pression fiscale sur les ménages, sur les entreprises. C'est un fait objectif. Et après, la transition écologique, puisque je vous parlais de la loi mobilité que nous avons votée il y a quelques jours, elle est financée. C'est 13,4 milliards pour le champ des transports qui me concerne. Et c'est d'ailleurs une des premières fois qu'une loi est financée. Et d'ailleurs, je salue l'action d'Elisabeth Borne sur le sujet. Donc nous avons une action résolue. La transition écologique, ce n'est pas demain. C'est maintenant, ce sont des sujets très très concrets sur les zones à faible émission, sur les verdissements des flottes qui impliquent les entreprises.
Il faut qu'elles mettent la main à la poche davantage.
Il faut qu'elles soient effectivement moteurs dans cette transition. Par exemple, sur le sujet du verdissement des flottes, vous savez qu'un véhicule sur deux est acheté pour les besoins des flottes d'entreprises. C'est donc là qu'on a vraiment le levier pour verdir les véhicules, qui après sont des véhicules sur le marché d'occasion. Et vous voyez comme ça comment on peut dessiner un cercle vertueux.
Un mot sur la situation à Aigle-Azur. L'entreprise a été placée en liquidation judiciaire hier. Il y a plus d'un millier de salariés qui s'inquiètent. Les repreneurs ont encore quelques heures pour affiner leurs offres. Est-ce que vous savez combien d'emplois, au final, seront sauvés et combien resteront sur le carreau?
Alors, en tout cas, l'offre combinée d'Air France et du groupe Dubreuil préserve à peu près 80% des emplois français. Et vous savez par ailleurs que l'offre...
Ce qui laisse plus de 200 personnes, 2 à 300 pour l'instant...
En l'état, et que le juge donc qui a prononcé hier la liquidation avec poursuite d'activité jusqu'au 27 septembre prochain, a aussi donné 48 heures aux différents pétitionnaires pour améliorer leur offre. Il y a 4 ou 5 offres qui ont été présentées, il y a une offre d'EasyJet, il y a d'autres offres qui sont aussi en compétition, et donc moi j'espère que les offres seront améliorées, y compris sur le plan de la préservation de l'emploi.
Est-ce que l'État, qui est actionnaire d'Air France, met la pression en ce moment sur la compagnie pour qu'elle améliore son offre?
L'État a une discussion exigeante avec Air France.
Et ça veut dire
qu'Air France est en pleine transformation, est en pleine consolidation, et que l'État accompagne notamment avec les services de Bercy la restructuration industrielle d'Aigle-Azur, en tout cas de ce que deviendra Aigle-Azur après cette liquidation. Et oui, l'État est extrêmement mobilisé sur le sujet.
Et l'objectif, c'est qu'Air France reprenne tous les emplois?
L'objectif, c'est que Air France, en tout cas l'offre qui serait l'offre de reprise ou l'offre en liquidation, reprenne le maximum d'emplois.
Le maximum, pas forcément l'intégralité.
Dans la mesure où cela est rationnel sur le plan économique. Vous savez bien qu'il y a des redondances, notamment sur les fonctions dites support, et qu'on peut comprendre qu'il faut accompagner ces salariés qui resteraient effectivement sur le côté de l'offre, mais qu'en revanche, nous poussons pour que le maximum d'emplois français soit préservé.
Le maximum, c'est combien pour vous?
Je l'ai dit, nous visons 90% des emplois. Les offres actuelles sont environ à 80%. Nous continuons à maintenir cette pression positive.
On va parler de la réforme des retraites, si vous voulez bien, dans quelques instants, avec la grève de la semaine dernière qui a été particulièrement suivie dans les transports en commun franciliens. Mais d'abord, un coup d'œil à l'actualité à 8h40 avec Lauriane Delanoë.
Un campement de migrants en cours d'évacuation à Grande-Synthe dans le nord. 800 à 1000 personnes, des Kurdes irakiens pour la plupart. Ils étaient installés dans un gymnase et autour dans des tentes depuis l'hiver dernier. L'État veut les mettre à l'abri dans des centres d'hébergement de la région. Vers un dépistage personnalisé du cancer du sang, une étude européenne lancée pour une surveillance basée sur le risque pour chaque patiente et non plus sur l'âge seulement, selon les préconisations actuelles. Les médecins cherchent 20 000 femmes participantes en France. Pour Cécile Duflo, c'est une décision courageuse qui restera dans l'histoire. Le tribunal de Lyon relaxe 2 militants écologistes qui avaient décroché un portrait d'Emmanuel Macron en février dernier. D'après l'actuelle directrice de l'ONG Oxfam, ancienne ministre interrogée ce matin sur France Info, le juge reconnaît l'inaction climatique du gouvernement. Toutes les séries de Netflix bientôt disponibles sur Canal+, avec un paiement en plus. Un pacte entre les deux ex-rivaux, on s'étend partout où on le peut, explique le patron de Canal+, ce matin sur France Info. C'est la seule stratégie qui peut fonctionner, cette ouverture à l'international, poursuit Maxime Saada.
France Info. Et tout est plus clair.
Toujours avec le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari. Est-ce que vous avez été surpris par la mobilisation particulièrement importante vendredi dernier à la RATP, 95-98% de grévistes dans certains secteurs?
Non, elle était attendue. Et moi, je me suis rendu vendredi matin devant la maison de
attendue,
la RATP.
Mais très forte.
Attendue, c'était une mobilisation forte, mais attendue, prévue par la direction de la RATP, qui avait d'ailleurs mis en place un plan de transport alternatif qui a plutôt bien fonctionné. Mais c'est sûr qu'il
vous
y a...
Vous trouvez que le plan de transport alternatif a bien fonctionné à la RATP?
Dans la mesure où la journée était dégradée, mais les métros ont pu rouler sur la ligne 1 et 14.
10 lignes entièrement fermées.
Deux lignes automatiques, faut préciser.
Les lignes 4, 7, 8. Pardon, des techniques pour les non-franciniens qui nous écoutent, mais on peut pas dire que le dispositif alternatif ait bien fonctionné.
En tout cas, le niveau de services.
Oui, les lignes automatiques ont roulé.
Non, ligne 4, 7, 8, 9 ont un peu roulé pendant les périodes de pointe. Oui. Et puis, il y a tous. Par exemple, le vélo a été plébiscité dans
le
Paris.
Le vélo qui n'est pas, à ma connaissance, du ressort exclusif de la RATP.
Pas du ressort exclusif.
Il y a beaucoup de gens à vélo.
Mais la RATP a fait un gros effort sur les mobilités qu'on dit douces. Et ce plan-là a plutôt bien fonctionné, même si effectivement la journée était très perturbée. Ça a engendré beaucoup de bouchons. Bref, vous avez raison, c'était une journée compliquée pour
vous
les Français.
Vous l'avez pas pris comme un avertissement assez fort?
Mais moi, je suis allé discuter avec les agents de la RATP devant le siège de la RATP pendant à peu près une heure pour essayer de nouer dialogue avec eux. Les agents de la RATP, aujourd'hui, ils sont anxieux de l'évolution de leur régime de retraite. Et quand je lis les tracts syndicaux, je comprends leur anxiété. Et donc moi, j'ai essayé d'abord de leur expliquer que ce qui était écrit sur les tracts n'était pas le projet du gouvernement.
Alors qu'est-ce qui est inexact dans leurs revendications ?
Eux, si vous voulez, ils ont fait un copier-coller du rapport de Levoix en disant « voilà, vous, agent de la RATP, dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, vous gagnerez, vous travaillerez 10 ans de plus, et vous gagnerez, en tout cas, votre pension sera de 30% inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. » C'est évidemment pas le projet du gouvernement, et c'est très anxiogène, et ça, je le comprends.
Le rapport de Levoix, c'est pas le projet du gouvernement, clairement.
Non, c'est une base de travail, et le projet du gouvernement, c'est celui qui va être construit avec les syndicats, avec les agents, et c'est ce que je leur ai dit. D'abord, on a le temps. Vous savez que les droits acquis jusqu'en 2025 restent absolument sédimentés dans le bloc social, et qu'à compter de 2025 jusqu'en 2040, nous allons construire cette transition avec eux, et je crois que ce discours d'ouverture a été perçu.
On peut peut-être comprendre qu'il soit un petit peu angoissé, comme vous dites, puisque vous dites le rapport de Levoix, c'est pas le projet du gouvernement.
C'est une base de travail.
Mais Jean-Paul Levoix vient d'être nommé, lui, au commissaire, au sein du gouvernement, pour charger s'occuper de cette réforme.
Et je rappelle que c'est une base de travail qui pose les
donc,
grands critères.
Il va être amené, Jean-Paul Levoix, excusez-moi, à revoir, en fait, ses propositions de la mi-juillet.
Non, faut qu'il les abandonne. Il y a beaucoup des régimes spéciaux, mais je rappelle quand même que le rapport de Levoix pose une base de travail pour 80% des Français qui ne sont pas aujourd'hui dans des régimes spéciaux. Et que par ailleurs, le sujet de faire converger les régimes spéciaux dans un temps long avec un régime universel était à la fois une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, c'est un objet d'équité sociale fort, parce que je pense que le fait d'avoir une retraite, une pension décente quand on a travaillé toute sa vie en équité, c'est au cœur finalement du contrat social français, et qu'on a le temps, nous ne sommes pas sous contrainte financière et nous ne sommes pas sous contrainte de temps pour construire ce système universel des recettes.
Mais la disparition des régimes spéciaux, elle est toujours d'actualité. Sur ce point-là,
la convergence des régimes spéciaux,
les agents de la RATP ont raison de s'inquiéter.
La convergence des régimes spéciaux dans le régime universel, est évidemment sur la table. Après, le Premier ministre l'a dit et il a raison, nous prendrons en compte la dimension de la pénibilité, de la dangerosité, les contraintes particulières des métiers.
Il y a hier, dans les rues de Paris, toute une série de corporations justement concernées par cette convergence que vous évoquiez à l'instant, des régimes spéciaux des régimes particuliers vers un régime unique, qui étaient dans la rue pour protester, notamment les avocats, les infirmières. Votre corporation, d'ailleurs, vous êtes pilote de ligne de profession, les pilotes de ligne étaient dans la rue
J'ai
hier.
J'ai cotisé.
Est-ce que vous comprenez leur mécontentement? Ils ont le sentiment, en fait, de se faire piquer, en quelque sorte, leur régime de retraite qui est à l'équilibre, voire bénéficiaire, par l'État.
Bon, d'abord, il y a des situations très différentes entre les avocats, par exemple, qui ont aujourd'hui plutôt des taux de cotisation qui sont bas, et les pilotes avec des taux de cotisation très élevés. Ils ont des réserves, en général.
Les pilotes, ils ont raison de protester.
Non, ils ont des réserves, je le disais, importantes, et ils craignent aussi souvent que l'État s'empare des réserves pour financer le système général.
C'est ce qui va se produire.
Non. L'engagement a été clair sur le sujet. Ceux qui ont bien géré des régimes et des régimes qui sont excédentaires sur leur réserve sera utilisée pour la corporation, pour le dire comme ça. En revanche, tous ces régimes-là ont le même problème à terme, le problème démographique. Aujourd'hui, il est intéressant de partir à la retraite quand vous êtes pilote ou avocat, de partir à la retraite maintenant. Dans 20-30 ans, les jeunes avocats ou les jeunes pilotes sont dans la même situation que beaucoup de jeunes Français, c'est-à-dire face à des régimes de retraite qui sont déséquilibrés sur le plan financier. Et c'est donc ça qu'on doit construire ensemble, l'équité, effectivement adresser le sujet des corporations qui ont bien géré et qui disposent de réserves, et puis la lisibilité l'équilibre financier, notamment pour les générations à venir, c'est bien ça le sujet.
Mais il n'y a pas un caractère un petit peu dogmatique de cette réforme, de vouloir absolument passer toutes les professions sous la toise et justement de supprimer tous les caractères particuliers, y compris des régimes autonomes, encore une fois, à l'équilibre ou bénéficiaires aujourd'hui? Il n'y a pas un côté un petit peu idéologique et dogmatique de la part du gouvernement?
Pas sous la toise. Le sujet, c'est que nous allons discuter secteur par secteur, et dans mon secteur, j'ai un certain nombre de régimes spéciaux, RATP, SNCF, les pilotes, les contrôleurs, vous l'avez dit. Donc nous allons prendre le temps de la discussion pour voir comment on fait converger tout ça vers un régime universel qui est équitable. Mais vous savez, quand on parle du fond générationnel de la chose, c'est-à-dire quand on parle à des pilotes ou à des avocats, de savoir s'ils pensent que leurs enfants auront un régime de retraite décent ou une retraite décente à horizon 20, 30, 40 ans, tous ont un doute sur le sujet. Donc ça veut dire que, au fond, la fragilité du système de retraite français...
Ils ont un doute aussi sur les propositions du gouvernement,
elle est partagée. Et donc la construction d'un régime qui soit équilibrée sur le plan financier, qui soit équitable pour la société, elle est quand même, je crois, au fondement à la fois du contrat français et partagé par la majorité de la population.
La SNCF, Jean-Baptiste Djebbari, on devrait connaître dans les heures ou les jours qui viennent le nom de l'homme ou de la femme qui succédera à Guillaume Pepy. Vous savez qui c'est, vous ?
J'ai participé à la réflexion autour du président de la République, je lui ai donné mon avis, et c'est bien lui qui proposera le candidat pressenti dans le timing qui lui appartient.
Vous lui avez donné une shortlist ?
En tout cas, je lui ai donné, puisque j'avais eu l'occasion de bien connaître l'entreprise publique au gré de la réforme ferroviaire que j'avais menée côté Parlement il y a un an, je lui ai donné mon sentiment. Et effectivement, vous savez que la SNCF aujourd'hui est vraiment face à des défis qui sont majeurs, l'ouverture à la concurrence, la régénération.
Donc il faut quelqu'un de l'intérieur de l'entreprise, quelqu'un qui connaît bien l'entreprise.
Je crois qu'il faut quelqu'un qui connaît bien l'entreprise.
C'est donc quelqu'un qui serait déjà en poste, par exemple le patron de réseau SNCF, Patrick Jeantet.
Tous les noms qui ont circulé, sincèrement, sont des noms de valeur, des candidats de valeur. Donc moi, je ne me prononce pas sur le nom, mais je pense que c'est un gros groupe, la SNCF. C'est 150 000 cheminots, c'est 300 000 personnes, c'est un groupe mondial. Et effectivement, le temps va vite. Et les enjeux sont maintenant. La transformation sociale de l'entreprise est majeure, avec des métiers qui changent très très vite. Et il faut quelqu'un qui soit en capacité d'agir tout de suite.
Et qui soit capable de rassurer les cheminots aussi.
C'est très important. Vous savez qu'il y a là aussi beaucoup d'anxiété sur la concurrence. La SNCF peut très bien y réussir. Mais il faut préparer avec quelqu'un effectivement qui donne confiance ou qui ouvre une nouvelle page pour cette belle entreprise
publique. Est-ce que dans la feuille de route que vous fixerez au nouveau président de la SNCF, il y aura de ne pas fermer de petites gares ?
Alors, d'abord, il y a tout ce sujet, vous avez raison, c'est un beau sujet, les gares liées aux maisons françaises.
C'est un beau sujet, et puis c'est surtout un sujet d'inquiétude pour beaucoup de monde.
C'est un sujet territoire, c'est un sujet effectivement qui, quelque part, a matérialisé au moment de la crise des Gilets jaunes, une forme de recul de l'État. Il y a des projets qui sont très intéressants au sein de la SNCF, qui s'appellent Mille et une guerres, qui permettent de redynamiser l'ensemble de ces points au bénéfice des populations. Donc, un des enjeux, ce sera effectivement de faire vivre les gares.
Sans enfermer ?
Alors, en les faisant évoluer parfois, vous avez des points d'arrêt qui ont fermé, des gares qui ont d'ores et déjà fermé, mais qui peuvent être reconverties en tiers-lieux, en maisons d'accueil du public. Et je crois que ce
donc il y aura des fermetures de gare. Il y aura des fermetures de gare.
Il y a déjà des lignes. Vous savez, il y a des lignes qui sont arrêtées. Il ne faut pas être démagogique sur le sujet. Des petites lignes aujourd'hui sont à l'arrêt. Donc dire moratoire, c'est se faire plaisir ici dans un studio parisien, mais ce n'est pas la réalité de ce qui est ressenti dans le territoire. En revanche, dire que les gares,
c'est ce qu'avait annoncé le Premier ministre au moment du mouvement des Gilets jaunes.
Que les gares peuvent être des points où on fait converger les services et les transports, et savoir comment on redynamise les petites gares dans les territoires, c'est un beau sujet pour le nouveau patron de la SNCF, et c'est un sujet sur lequel nous serons évidemment très attentifs.
Vous restez avec nous, Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État au transport. On va parler des décrocheurs dans un instant. On parlera également des lois bioéthiques avec l'Église qui prend position, et puis on parlera, si on a le temps, un tout petit peu de votre autre passion à côté des transports, c'est le rugby.
C'est le rugby.
Si vous voulez bien, je crois qu'il y a un événement qui arrive dans quelques jours. D'abord un tour de l'info à 9h10 avec Lauriane Delanoë.
Emmanuel Macron parle à sa droite. Le président se dit attaché au droit d'asile, mais affirme qu'il est détourné, manipulé par certains. Le président, devant les parlementaires de la majorité hier soir, il les appelle à regarder le sujet de l'immigration en face pour ne pas le laisser à d'autres partis. Des migrants, entre 800 et 1000 personnes, évacués en ce moment d'un campement à Grande-Synthe dans le Nord. L'État leur propose une mise à l'abri dans des centres d'hébergement. Un plan de lutte contre le trafic de drogue. 4 membres du gouvernement à Marseille ce matin pour présenter le nouvel office anti-stupéfiant. Le décloisonnement entre les services est une nécessité, affirme ce matin sur France Info le secrétaire général du syndicat des commissaires de police. Des élections législatives comme un référendum en cours en Israël. Benjamin Netanyahou, le premier ministre sortant, joue son poste. Second scrutin car il a échoué à constituer une majorité il y a 5 mois. Jusqu'où iront les équipes françaises? La Ligue des Champions commence ce soir, premier match de la phase de poule. Les footballeurs lyonnais face au Zénith Saint-Pétersbourg. Les Lillois à Amsterdam contre l'Ajax, demi-finaliste la saison dernière.
France Info. Et tout est plus clair.
Jean-Baptiste Djebbari, hier, des militants qui avaient décroché le portrait d'Emmanuel Macron dans une mairie à Lyon ont été relaxés par un tribunal. C'est une décision inédite. Les juges ont retenu, je cite, l'état de nécessité au regard de l'urgence climatique. Comment vous réagissez ?
Moi, je suis d'accord sur l'état de nécessité au regard de l'urgence climatique et je suis un peu étonné de la décision du juge que je ne vais pas commenter. Il y aura d'autres instances, l'appel, la cassation. Mais en droit, effectivement, cela paraît un peu étonnant pour le citoyen que je suis.
Pensez qu'il y a un juge qui a essayé de se faire plaisir ?
Je ne prononcerai pas, mais la deuxième partie de la phrase sur l'urgence climatique, j'en conviens. En revanche, effectivement, la décision en elle-même me paraît quelque peu interrogée.
Surprenante.
Mais encore une fois, le droit, vous savez, il y a des instances, il y a des niveaux de juridiction.
Il y a un appel qui a été fait.
Il y aura un appel, il y aura une cassation qui, en droit, dira des choses similaires, ou peut-être d'autres choses.
Vous redoutez que cette décision fasse école, qu'elle incite d'autres militants à agir de même ?
Non, mais que cela, quelque part, fasse résonance avec l'inquiétude des Français, des jeunes, qui, quelque part, elle répercute ce sentiment de devoir agir plus, de façon plus rapide en faveur du climat, contre le dérèglement climatique. Si vous voulez, je crois que c'est une prise de conscience sociétale qui est utile. Qu'en revanche, on utilise les procédures qui sont prévues pour faire passer ces messages-là ne me paraissent pas tout à fait être de bon aloi en République. Mais encore une fois, c'est un avis personnel et le droit dira le droit à l'occasion des instances futures.
Sur la question des lois bioéthiques et de la PMA, le président de la Conférence des évêques de France a appelé hier soir les citoyens, je le cite, inquiets à manifester le 6 octobre prochain, aux côtés donc de certains élus de droite, d'extrême droite et de la Manif pour tous. Est-ce que l'Église est dans son rôle dans ce débat-là ?
Non, mais l'Église a le droit d'avoir cette position qui d'ailleurs est finalement constante depuis de nombreuses années sur ces sujets-là. Moi, j'observe que la société veut ces avancées sociétales et que la société est certainement très en avance encore aujourd'hui sur l'Église, sur ces positions-là. Donc ce débat sur la bioéthique, sur la PMA a été très bien mené, de façon d'ailleurs très ouverte à l'Assemblée nationale avec une association de l'opposition. Ce texte, il est prêt. Il est, je crois, une attente des Français et j'observe avec attention ce que dira l'Église et tout autre partenaire du débat public, mais la volonté de la majorité présidentielle et du gouvernement sur le sujet est intacte.
Renaud Dely.
Vous redoutez l'ampleur des mobilisations contre ce texte ? On se souvient évidemment des manifestations contre le mariage pour tous en 2013. Est-ce que vous redoutez une répétition ?
Non, c'est la démocratie. Je crois que trois quarts des Français sont en accord avec ce que contient ce projet de loi bioéthique et que c'est une demande sociétale que d'avancer sur ces sujets.
On a appris hier, Jean-Baptiste Djebbari, qu'Emmanuel Macron mesure et évalue régulièrement et attentivement l'action de ses ministres à l'aide d'une petite application qui est française. Au passage, vous êtes fliqué, vous, ou vous êtes exempté en tant que nouveau ministre ?
Écoutez, si cette application, c'est une version améliorée d'un tableur Excel, alors je crois qu'on peut se rasséréner sur le sujet. On est effectivement évalué sur ce qu'on appelle les objets de la vie quotidienne. Par exemple, sur mon champ, c'est le plan vélo, c'est les zones à faible émission, c'est
la prime à la conversion. La RATP.
Non, vous voyez, c'est des objets plus positifs, que ce que vous citez. Donc, évidemment, qu'on est dans une dynamique de délivrer de l'action positive en faveur des Français et que cette action, elle doit être évaluée.
Quand ça il vous a embauché, normal. Emmanuel Macron, et vous l'avez dit, ça ?
Non, mais il n'y a pas d'embauche.
Je suppose que vous avez été reçu à un moment à l'Élysée ou ailleurs.
Parlé effectivement des...
Il vous a dit, j'attends des résultats et vous serez noté.
Il a dit évidemment qu'il attendait des résultats sur ces objets de la vie quotidienne parce que ce qui compte, c'est que la politique se transforme ou se traduise en effet concret pour les Français. Et il a dit qu'effectivement, il engageait ses ministres, ses secrétaires d'État à être résolument dans l'action et qu'il évaluerait ses actions. Il justement, a dit effectivement, notamment la semaine dernière, à l'occasion du Conseil des ministres.
Justement, vous avez été nommé il y a deux semaines au gouvernement ?
Oui.
Ça veut dire que vous êtes encore en période d'essai aujourd'hui ?
Je crois que la période d'essai est à peu près permanente en politique, si vous voulez mon avis.
Vous connaissez votre note ?
Non, mais ça n'a peu d'importance. Ça n'a que peu d'importance. Et moi, ce qui m'importe, c'est d'abord une action utile. C'est un champ passionnant, les transports. C'est la vie quotidienne. C'est au croisement de plein de transformations numériques, environnementales. Et j'essaierai d'y être un agent utile de la République.
Et pourtant, Jean-Baptiste Djebbari, vous avez un vrai regret aujourd'hui, c'est de ne pas être au Japon, puisque le 15 parlementaire doit rencontrer aujourd'hui les All Blacks, la Nouvelle-Zélande, 15 parlementaires au sein duquel vous jouez au poste de demi d'ouverture.
Absolument, qui a gagné d'ailleurs contre les Anglais 29-7 il y a deux jours, et qui affronte, et j'ai une pensée pour eux, les All Blacks de la Nouvelle-Zélande aujourd'hui.
Vous préféreriez être là-bas en fait ?
Non, je le sais. Alors, je suis très content et honoré d'avoir été nommé, mais je suis de très près leur aventure, d'autant qu'ils ont un match capital aujourd'hui, qui les mènera peut-être en finale. Dans quelques jours.
Quand on est demi d'ouverture, on est, pardonnez ma méconnaissance du rugby, ni à droite ni à gauche.
Voilà, on est au centre.
C'est ça.
On est en même temps.
Ce qui est la meilleure position pour un macroniste.
L'animateur des lignes arrières, mais vous savez que personne n'est planqué au rugby. Et que, comme la politique, c'est un sport collectif de combat.
Il nous reste 10 secondes à pronostic pour les Bleus. À la Coupe du Monde, la vraie. Pas celle des parlementaires, sans vous faire insulte.
L'honnêteté me pousse à la prudence, mais l'équipe de France réussit en général toujours assez bien en Coupe du Monde.
Vous pensez que le discours motivant d'Emmanuel Macron il y a quelques jours
aura un effet capital, je n'en doute pas.
J'en attendais pas moins de vous comme réponse.
Mais vous êtes pessimiste.
Non, je suis. Quand j'observe les All Blacks, les Sud-Africains jouer, je me dis qu'ils sont d'un niveau un tout petit peu supérieur. Mais évidemment, en tant que Français, j'ai l'optimisme chevillé au corps.
Merci à vous, Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État au transport, invité ce matin de France Info. Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info. Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis. Un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.